Bonjour. Les êtres humains sont doués d'émotions qui permettent de ressentir et de s'exprimer. Et j'aimerais réfléchir sur leur rôle, leur fonctionnement et surtout comment elles s'imbriquent avec la raison et la volonté. Je me suis levé ce matin et je pensais à l'enregistrement que je devais faire aujourd'hui. Et en fait, le ciel était gris. Il y avait quelques petite situation, mais vraiment pas importante, qui était pas tout à fait positive. Et puis j'ai commencé d'avoir un sentiment de ne pas être bien, jusqu'à ce que je réfléchisse et que je me dise, mais il n'y a aucune raison de ne pas être bien. Raisonnablement, j'ai une belle vie, voilà. Le soleil, je ne le vois pas, mais il existe toujours, tout va bien. Et voilà, ça m'a amené à cette petite réflexion que j'aimerais vous partager sur les émotions, la réflexion et les décisions. On peut percevoir le monde qui nous entoure par nos émotions ou par notre raison, par les deux bien sûr, mais selon notre personnalité, notre tempérament, notre éducation, notre environnement, notre milieu culturel, etc., on peut avoir tendance à utiliser l'un plus que l'autre. Et dans le domaine du christianisme, si on regarde historiquement et puis ce qui se vit aujourd'hui, on a la même chose. On trouve tous les extrêmes. D'un côté, ceux qui nient l'utilité des émotions, ou pire, qui les attribuent au mal, à l'ennemi. Et puis, jusqu'à ceux qui vivent que par et pour leurs émotions. Alors, la Bible n'a pas des textes qui parlent spécifiquement de ce sujet, mais elle aborde ce thème de beaucoup de façons indirectes. Et on y trouve des informations précises. Alors, on peut voir ça au travers de plusieurs prismes. Par exemple, en observant Jésus, l'homme Dieu, mais aussi au travers des psaumes, et de beaucoup d'autres textes. Je commence un petit peu avec ce qu'on peut voir de la vie de Jésus sur Terre, hein, qui était à la fois Dieu et à la fois homme. Et on peut voir qu'il a expérimenté et ressenti toute la gamme des émotions humaines. Premier texte, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrirent la vie et le suivirent. Donc Jésus a été ému de compassion. C'est une émotion qui est là et devant le besoin de cet homme, devant son handicap, il a été ému. Dans notre texte, il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. » Là, on est dans le jardin de Gethsémané, Jésus va devoir affronter la croix, il le sait, et il expérimente la tristesse à un point que probablement jamais aucun autre humain ne pourra l'expérimenter. C'est violent, et ses disciples s'endorment, ils ne sont pas là, mais voilà, il est triste. Jésus monta à Jérusalem, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Et ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Ici, nous voyons Jésus avoir de la colère. On parle parfois d'une sainte colère, mais c'est tout simplement une autre émotion qui s'est manifestée, hein, à ce moment-là. On pourrait continuer avec d'autres personnages dans la Bible et d'autres textes, mais ça suffit. Et le côté réflexion, l'utilité de l'étude, de l'application raisonnée de ce qu'on a appris, alors ça c'est très très fréquent à travers les Écritures, on connaît assez bien ces choses-là. Les proverbes et les psaumes nous encouragent à apprendre la sagesse, à lire, à méditer, à réfléchir avant d'ouvrir la bouche. On va juste prendre quelques textes pour le souligner, mais ils sont très très nombreux, hein. Ce proverbe. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert de la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans le psaume 1, versets 1 et 2. Donc on voit déjà ces deux textes qui nous parlent de réfléchir, de méditer. Ils font appel à l'intelligence, au raisonnement. Un autre psaume. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Et un texte dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui écrit aux croyants de la ville d'Éphèse et qui leur dit « Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire avec tous les croyants, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Donc il leur demande, il prie pour qu'ils puissent comprendre et connaître, savoir. Voilà. Donc, là, ce qui va nous intéresser dans ce petit moment ensemble, c'est surtout le lien entre ces deux éléments, les émotions et la raison, ou la réflexion. J'aimerais rappeler ici quelque chose, faire une petite parenthèse. Plusieurs d'entre vous m'ont souvent entendu parler de ce sujet, mais lorsqu'on parle des vérités dans les Écritures, une chose n'est pas vraie simplement parce qu'elle est véridique. Il faut qu'elle soit véridique, mais il faut aussi qu'elle soit à sa place par rapport au tout qui est vivant, qui est harmonieux, et chaque morceau véridique doit être connecté aux autres morceaux dans le bon ordre. Et pour ça, il y a une petite illustration que j'utilise souvent et que je vais réutiliser ici pour comprendre ce principe. Les images parlent mieux que les mots. Si je vous pose la question, les morceaux qui sont ici, sont-ils des morceaux de léopard ou de guépard? Vous allez donner une réponse ou l'autre, ou peut-être pas savoir. Mais si on va un petit peu plus loin, et que je vous demande, est ceci? Alors là, vous avez quand même un indice assez fort, puisqu'on voit une tête de girafe. Mais est-ce que nous avons là une girafe? Non, nous avons des morceaux de girafe. Chaque morceau est vrai, mais le lien qui les lie l'un à l'autre n'est pas correct. Si on rassemble toutes les pièces de la girafe, on arrive à ceci. Mais est-ce vraiment une girafe? Oui et non. Une vraie girafe, c'est ceci. Alors, ici c'est une photo, mais il faudrait que ça bouge. Voilà, une girafe vivante dans son milieu naturel. C'est de ce principe-là que nous allons parler dans le lien entre les émotions et la raison. Dans le monde spirituel, nous devons comprendre quel est le sens de la vie, ce qui lie entre les différents éléments de notre foi et de notre parcours avec Dieu afin de respecter ses mouvements. Donc, si je reviens à mon thème des émotions et du lien qui les lie à la raison, à la volonté, la première chose qu'on peut dire, c'est que les émotions sont bonnes, créées, voulues par Dieu, pour nous permettre d'apprécier, de goûter, de ressentir. Elles sont les papilles gustatives de notre vie intérieure, hein, ou le système nerveux de notre corps. Système nerveux dans le sens qui nous permet de sentir, de toucher, de ressentir le chaud, le froid, la douleur. Mais elles n'ont pas été créées pour réfléchir, ou pour penser. Je vais prendre plusieurs images, et toutes ces images, bien sûr, il ne faut pas les pousser trop loin, elles sont limitées, mais pour nous permettre de saisir un petit peu ce que j'aimerais vous communiquer. Les chaînes stéréo, dans une époque très lointaine, c'est-à-dire quand j'étais jeune, étaient constituées d'éléments différents. Hein. On le voit ici sur cette photo, il y a un lecteur, même si celui-ci est assez récent, puisque c'est un lecteur de CD, mais il y a un ampli, c'est le deuxième élément qui est posé dessous. Et de chaque côté, on a les haut-parleurs. Dans cette métaphore, les haut-parleurs sont les émotions. Les haut-parleurs n'ont pas été créés pour décider quel genre de musique on passe, simplement, ils sont là pour communiquer ce que le lecteur diffuse, hein, par le moyen de l'amplificateur. Donc, les émotions, normalement, sont là pour manifester ce qui se passe dans votre vie intérieure, dans le monde extérieur, hein, au-delà de la parole. Elles sont là. Mais les émotions fonctionnent dans les deux sens. Oui, elles viennent de l'intérieur de l'être humain et elles vont vers l'extérieur pour manifester notre joie, notre colère, notre tranquillité, etc. Mais aussi, elles nous donnent des informations. Et dans ce sens-là, on peut changer d'image. Et une autre image serait le casque avec un microphone. Donc, qui permet à la fois d'écouter, mais aussi de parler, donc de donner et de recevoir. Il y a un aller-retour. Les émotions font sans arrêt ce trajet entre notre intérieur et l'extérieur, l'extérieur et l'intérieur de nous-mêmes. Encore une fois, comme tout ce que Dieu a créé, c'est un cycle. Alors, dans l'expression de ce qui est à l'intérieur de nous, bah, c'est un sujet assez simple. Hein. Je suis en colère et puis ça s'exprime, et puis après je crie, etc. Mais dans l'autre sens, c'est là où ça peut être, je ne dirais pas dangereux, le mot serait trop fort, mais en tout cas, où elles ont un impact sur notre raison. Et ce sujet, Pascal, le philosophe, et mathématicien, l'a développé en prenant cette image, l'image d'un homme qui doit marcher sur une poutre. Et il dit ceci, si vous mettez une poutre solide à 40 cm du sol et vous demandez à quelqu'un de marcher dessus, à peu près toutes les personnes valides vont essayer, la plupart vont réussir, en tout cas, personne n'aura peur. Maintenant, si vous prenez parmi les gens qui ont essayé, ceux qui ont réussi sans aucun souci à marcher sur cette poutre à 40 cm du sol, et vous leur demandez de faire la même chose à une centaine de mètres du sol. Et la plupart des gens vont refuser. Le support est toujours aussi solide, l'exercice n'est pas devenu plus compliqué, mais les informations que nous donnent nos émotions perturbent notre raison. Et c'est la même chose pour l'intelligence spirituelle que j'appellerais aussi la foi. La foi n'est pas un saut dans le vide, surtout pas avec cette image-là. Elle n'est pas une émotion. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on peut penser à tort. On imagine la foi comme un sentiment qui vient et puis on ressent quelque chose. Non. La foi, c'est l'intelligence spirituelle. C'est la rationalité intérieure qui intègre dans son raisonnement des données qui sont souvent invisibles pour le regard, mais qui sont pourtant objectives et qui nous sont communiquées par cette bibliothèque, cet ensemble de livres que nous appelons la Bible, le livre. Donc la Bible nous ouvre des horizons intérieurs en nous communiquant la pensée de Dieu. Et en tant que croyants, nous allons ou nous devrions utiliser ces informations pour décider comment vivre. Et ensuite, laisser les expressions que cela suscite s'exprimer. Et c'est pour ça que, vous savez, comme le dit si bien le renard au petit prince, les mots sont pleins de malentendus. Lorsqu'on entend cette phrase, qu'on entend souvent de nos jours, ou des phrases synonymes, il faut suivre ton cœur. Alors, c'est ambigu. Si lorsqu'on dit « il faut suivre ton cœur », ce qu'on comprend, c'est « il faut rejoindre la pensée de Dieu qui se trouve dans ton cœur », parce qu'elle y a été mise, parce qu'on a appris au travers des Écritures ce que Dieu pense. Et puis, il faut obéir à cette pensée, alors il faut suivre ton cœur, c'est très bien. Mais si lorsqu'on dit « il faut suivre ton cœur », cela veut dire « il faut obéir aux informations que tes émotions ont captées à l'extérieur et ramenées à l'intérieur. Alors, je dirais danger, parce que nos émotions ne sont pas fiables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me lève, le ciel est gris et je suis triste. Il n'y a aucune raison d'être triste parce que le ciel est gris, le soleil existe toujours, il n'a pas disparu. les nuages le cachent, mais la terre a besoin de pluie. Simplement, mes émotions n'aiment pas que le ciel soit gris. Et puis, je commence à penser, oh, c'est une mauvaise journée. Non, c'est une belle journée, je suis vivant, je suis en bonne santé, tout va aussi bien que ça puisse aller dans ce monde. Hein. Donc, les émotions peuvent être trompeuses si elles se mettent à décider. Gustave Thibon, un auteur que j'aime beaucoup, a dit ceci. La foi consiste à ne jamais renier dans les ténèbres ce qu'on a entrevu dans la lumière. C'est une très belle phrase. La foi consiste à ne jamais renier dans les ténèbres ce qu'on a entrevu dans la lumière. C'est-à-dire que notre intelligence spirituelle, c'est ça la foi, apprend, découvre, comprend, intègre les faits qui viennent de la pensée de Dieu. Et lorsque on ne voit plus avec les yeux naturels, on continue de garder ce cap. Notre raison spirituelle doit vivre dans la lumière de la vérité des pensées de Dieu et elle garde ces informations pour les jours de brouillard ou pour les nuits les plus sombres. Si nous sommes là devant cette image que vous avez sur votre écran et que nous passons à celle-ci, la différence entre les deux, c'est simplement l'éclairage. Pourtant, rien n'a changé. Mais notre perception est différente. Alors, en comprenant cela, hein, et en voyant comment le cycle des émotions, donc j'ai expliqué, qui exprime ce qui est en nous et qui revient en nous donnant des informations, dans leur trajet de l'intérieur vers l'extérieur, on pourrait dire qu'elles sont, comme je l'ai dit au début, les haut-parleurs de l'âme. Et jusque-là, ben, il faut qu'elles s'expriment. Et c'est utile et bienfaisant pour nous et pour les autres. Vouloir stopper ses émotions parce que ce n'est pas correct de dire ce qu'on ressent, ou parce que peut-être pour les hommes, ah, dire que j'ai peur, ça ne se fait pas. Ou oh, une femme, ça ne se met pas en colère, ou je ne sais pas quels sont les clichés qu'on peut avoir. Non, nos émotions, bien sûr dans le respect de ceux qui sont en face de nous, elles ne peuvent pas prendre le contrôle, ou on est tellement débordé qu'on perd la raison, hein. Mais on doit exprimer nos émotions d'une façon ou d'une autre, et dans un cadre équilibré, donc c'est important. Mais dans le sens inverse, c'est-à-dire lorsque nos émotions nous communiquent des informations et qui vont décider de ce que nous allons faire éventuellement, elles doivent être reçues et analysées par la raison spirituelle, la foi. Donc dans ce cas-là, il nous faut les écouter, en tenir compte, mais pas leur obéir aveuglément. Le double piège toujours, c'est soit de vivre en prenant des décisions dictées uniquement par nos émotions, soit de dire non, les émotions, ça n'existe pas, on essaie de les étouffer et ça va faire des dégâts dans notre âme parce que nous avons besoin de cette circulation d'émotions. Donc on doit les exprimer et on doit les écouter. Mais elles doivent être filtrées, analysées et nos décisions, notre volonté ne doit pas se soumettre aux émotions. Mais simplement, il faut analyser ce qui se passe. Alors, plus nos yeux intérieurs seront affûtés, et plus ce sera facile d'avoir un rapport équilibré avec nos émotions. Notre regard intérieur, notre intelligence spirituelle, au bout d'un moment, peuvent devenir tellement précis, réels, ils peuvent canaliser les émotions et les remettre à leur place, dans une bonne perspective quand ce n'est pas le cas. Parce que, attention, nos émotions ne nous trompent pas toujours. Nous voyons quelque chose de beau, elles nous transmettent un sentiment de bien-être parce que c'est beau, et c'est magnifique. Se priver de ça, ça serait terrible. Nous voyons un ami qui arrive, et nous sommes heureux, et nos émotions nous transmettent ce bonheur intérieur, et c'est magnifique. Ou nous apprenons une mauvaise nouvelle, et puis nos émotions nous transmettent de la tristesse, et puis cette façon-là, nous allons pouvoir pleurer avec celui qui pleure, avoir de l'empathie. Donc tout ça, c'est non seulement c'est bon, mais c'est utile. Hein. Nous avons été créés pour fonctionner comme ça. Ce que je veux souligner dans ce petit moment, c'est le fait que la raison doit garder le contrôle, et surtout spirituellement, la raison spirituelle, la foi, doit garder le contrôle. Et parfois, il faut remettre les choses dans la bonne perspective. Paul dit ceci dans une prière pour les croyants de la ville d'Éphèse. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. » Et puis, il continue son sujet. Hein. Mais nous avons besoin de savoir et de voir, de garder nos yeux intérieurs ouverts sur la vraie réalité. Et cela va avoir une influence directe sur nos émotions, dans nos cœurs, et jusque dans l'expression de nos sentiments vers l'extérieur. On va voir un texte particulier qui nous montre ce processus-là, et bien sûr, il y a beaucoup d'autres textes qui en parlent, et les situations ne sont jamais les mêmes, mais celui-ci est intéressant parce qu'il nous permet de voir de façon concrète ce que je suis en train d'essayer de vous partager. Ce verset est assez connu par les gens qui lisent la Bible. C'est aussi un extrait d'une lettre de Paul aux croyants qui habitent la ville de Philippe. Et il leur dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Que nous dit ce texte ? En fait, nous recevons des informations réelles qui provoque de l'inquiétude. L'inquiétude est une émotion, nous sommes inquiets. Souvent, l'inquiétude vient quand on ne sait pas. Mais aussi, parfois, c'est parce qu'on sait et puis que les choses sont mauvaises. Et Paul dit ici, ne laissez pas le sentiment d'inquiétude prendre possession de votre être intérieur et vous faire vivre sous sa tyrannie. Oui, il y a un sujet d'inquiétude et vos émotions ont envie de s'affoler, de crier, de grimper au rideau. « Ah là là, ça va encore être comme d'habitude, ça va être terrible, ça va être difficile, on va souffrir, ça va faire mal, etc. etc. » Il continue en disant, mais en toute chose, c'est-à-dire dans quelle que soit votre situation qui vient et qui vous inquiète, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. La prière, c'est un dialogue. Hein. Et puis les supplications, c'est une partie spécifique de la prière, c'est que dans ce dialogue, on demande. Parce que dans un dialogue, normalement, on écoute. On écoute et on parle. Mais là, dans ce cas-là, l'inquiétude est là, elle menace de prendre le contrôle et peut-être de nous faire prendre des décisions qui sont mauvaises. Parce que lorsqu'on a peur et qu'on ne réfléchit pas, on peut prendre des décisions qui vont nous mettre encore plus en danger. Mais devant cette invasion intérieure par l'inquiétude, on prend les événements, les faits, la situation qui provoque l'inquiétude et on la présente à Dieu dans une attitude de reconnaissance. Pourquoi ? Pas reconnaissant pour l'épreuve. L'épreuve est une épreuve et Dieu ne nous demande pas d'être content parce qu'une épreuve arrive. Mais nous sommes reconnaissants parce que dans cette épreuve, et les épreuves frappent tous les humains, encore et encore, personne n'est privé d'épreuves. On aimerait, mais c'est comme ça. Mais dans cette épreuve qui vient, qui nous assaille, qui veut que nous nous inquiétons, nous avons une information qui n'est pas visible, mais qui est certaine, que notre intelligence spirituelle, notre foi, a acquise. C'est le fait que Dieu va quand même prendre soin de nous, quoi qu'il se passe. Ça ne veut pas dire qu'il va enlever les difficultés, ça ne veut pas dire que tout va se passer comme nous le souhaiterions, ça veut dire qu'il va nous aider à traverser cette période-là, et même si cette épreuve qui vient, c'est la fin de notre vie, et il y a de quoi s'inquiéter, mais il va le traverser avec nous pour nous accompagner jusque dans la vraie vie après. Donc, quelle que soit la situation, encore une fois, qui va peut-être pas ou probablement pas changer, nous pouvons être reconnaissants parce que nous ne sommes pas seuls pour la traverser et nous savons que Christ a pris notre main, ou même nous a pris dans ses bras, et puis il marche en nous portant à travers cette situation difficile. Et la conséquence, c'est que tout d'un coup, l'inquiétude se transforme en paix. Une paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Et elle va garder notre être intérieur dans la tranquillité. Ici, deux formes de raisonnement s'opposent et les émotions font l'aller-retour entre les deux. Le raisonnement, j'appellerais naturel, hein, voilà, une épreuve arrive sur moi et elle est là, et je la vois, et puis je sais que cette épreuve fait mal, parce que je l'ai déjà vécue, parce que je connais des gens qui l'ont vécu, peu importe. Et ça, c'est rationnel. Les émotions prennent cette information-là, et puis viennent à l'intérieur, et là, on voudrait que les sirènes se mettent à hurler, et que la raison se déconnecte, et que je tombe dans l'abattement, dans l'hystérie, dans la peur, dans l'angoisse, que j'en dorme plus, etc., etc., peu importe les manifestations. Mais parce que j'ai la possibilité de décider, parce que j'ai les bonnes informations, je vais prendre cet événement et je vais l'apporter à Dieu. Ce n'est pas juste que « Oh Seigneur, aide-moi !» Non, c'est « Je veux le vivre en étant conscient que Dieu est avec moi, dans une attitude de reconnaissance parce que une chose est certaine, il ne me laissera pas tomber. Oui, peut-être l'épreuve va me frapper de plein fouet, peut-être même ça va s'aggraver, peut-être même ça va devenir pire, mais il sera avec moi et ça change tout. Parce qu'il peut me donner la force de le traverser. Pas que ça disparaisse, mais de le traverser. Et à un moment, parce que j'ai pris cette décision-là basée sur ces informations que mon intelligence spirituelle à stocker, dont elle s'est nourrie, hein, il se passe quelque chose de surnaturel, c'est que la paix de Dieu répond à cette décision et envahit mon être intérieur et va garder mon cœur, mes pensées, et puis va se manifester jusque dans l'extérieur. Alors, vous voyez, cette première image que je vous avais présentée au début, qui semblait dire que les émotions et la réflexion s'opposent, se tournent le dos, s'affrontent, qu'il nous faut choisir entre l'un et l'autre. Et selon notre tempérament, ben nous allons sans hésiter choisir l'un ou choisir l'autre. Mais ce conflit, ce n'est pas une fatalité. Et l'un ou l'autre, la réflexion n'est pas mauvaise, les émotions ne sont pas mauvaises, l'un n'est pas meilleur que l'autre, chacun doit être à sa place pour que le cycle de vie puisse aller de l'avant. Alors, nos émotions et notre réflexion peuvent se faire face et fonctionner ensemble. Les émotions apprécient, manifestent, informent et nous permettent d'être autre chose que des ordinateurs, que des robots qui ont des informations et qui sont programmés pour situation A, réponse A, situation B, réponse B. Non. Nous sommes beaucoup plus complexes que cela. Et les émotions sont l'interface que Dieu a voulu que nous ayons, que nous utilisions, et qui sont magnifiques, pour pouvoir à la fois ressentir et communiquer. Mais elles doivent rester sous le contrôle de la réflexion, et notamment pour notre vie intérieure, de la réflexion spirituelle qu'on appelle la foi. Alors j'espère que pour vous, c'est quelque chose qui est déjà concret ou qui va le devenir, et je vous encourage en tout cas dans les jours qui viennent et dans vos différentes situations à réfléchir à ça et à demander à l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui se connecte à notre esprit aussi pour vivifier tout ça, pour énergiser ce principe-là, hein, c'est pas juste quelque chose qu'il faut faire, afin que notre foi puisse contrôler nos émotions, que nos émotions apprécient tout ce que Dieu nous donne, et que dans ce cycle d'aller-retour, ce cycle de vie, hein, comme la pluie qui tombe et puis qui va dans la rivière, qui va à la mer, qui remonte en vapeur, qui revient. Tout ce que Dieu fait fonctionne comme ça. C'est vivant. Que les notre réflexion spirituelle, nos émotions, avec notre volonté qui va faire le lien pour décider, puissent avancer ensemble pour que nous puissions être de plus en plus épanouis dans nos vies, avec Dieu dans nos vies, avec nous-mêmes, dans nos vies, avec ceux qui nous entourent. Merci beaucoup pour votre attention.